Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titane Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Avec nous au micro et de l'ami fidèle Laurent à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent.
Nous avons eu la grande chance de vivre toute une journée aux côtés de l'écrivaine Claudie Gallet. On l'a suivie à la bibliothèque, qui porte son nom, de Saint-Savin, puis reçue par les passeurs de mots à Margelire de Beaugoin-Jallieu, où l'on a enregistré pour vous son entretien avec Dominique Molin. Un bonheur. Écoutons plutôt.
Margelire est heureuse de recevoir Claudie Gallet à l'occasion de la parution de son dernier livre, Une part de ciel. Votre venue, Claudie, me touche, moi, Martine Gagé, plus personnellement. Je me souviens, Claudie, de notre première rencontre à Majolière, déjà il y a une dizaine d'années, lors de la sortie de vos premiers livres, L'Office des vivants, Mon amour, ma vie, beau livre sombre, dur, bouleversant, et l'on avait pressenti la naissance d'un grand écrivain. La suite l'a confirmé, Seule Venise, dans l'ordre du temps, Les déferlantes en 2008, Rencontre le grand public, ce livre a obtenu 7 prix, dont celui d'Électrice de Haye, et vous continuez. L'amour est une île, et pour finir, Une part de ciel, pour moi votre livre le plus abouti. Je me souviens aussi des rencontres sur les quais de la Saône, organisées par votre éditeur dans cet appartement un peu magique avec une bibliothèque en forme de vague. L'on y parlait de livres encore et toujours. Avant de passer la parole à Dominique Molin, je voudrais avoir un mot pour votre premier éditeur, Le Rouergue, le remercier. Je salue leur travail de dénicheur de talent, le soin qu'ils apportent à suivre leurs auteurs et les relations de sympathie qu'ils ont instaurées avec les libraires. Ils ont choisi de vous publier dans la collection La Brune, et je vais vous lire ce qu'ils en disent. La Brune. Ce mot, aujourd'hui peu usité, marque le passage du jour à la nuit, du bruit au silence du soir. La Brune est sûrement un de ces moments propices à la solitude et au plaisir de la lecture. Le livre peut s'ouvrir quand la lumière du jour décline. Dominique,
merci.
À toi.
Claudie Gallet, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien pour Couleur FM. Alors si je commence en vous disant qu'un certain nombre de passeurs de mots de Majolire ont aimé votre roman, vous allez sourire et puis l'entretien sera terminé, donc je ne commencerai pas comme ça. Je vais dire quelques mots peut-être de début de l'histoire d'une part de ciel. 3 semaines avant Noël, une gare en Savoie, un train qui arrive, une femme qui en descend, Carole, son frère Philippe qui est là. Ils attendent Gabi, leur sœur, qui va arriver. Et tous les trois, ils sont réunis, entre autres, parce qu'ils attendent le retour de leur père, qui a annoncé sa visite il y a quelques jours. On n'en dira pas plus. Alors nous sommes au Val des Sols, dans le massif de la Vanoise. Vous dites un bourg tranquille, pas si tranquille que ça, puisqu'il est question d'aménager une piste de ski qui aurait la difficulté d'une noire et qui va bouleverser les paysages et les habitudes. Au village, tout le monde est un peu partagé.
Oui. C'est vrai qu'il y a ce projet de piste de ski. Il me fallait un endroit un petit peu, une géographie un peu particulière, un bout du monde. Il me fallait quelque chose pour raconter cette histoire qui ne soit pas un lieu facile d'accès. Il fallait, voilà, j'avais envie d'un endroit comme ça, un petit peu isolé. Et donc cette vallée de la Maurienne que je connais un peu, puisque moi je suis native d'ici, donc c'était une terre qui m'est un peu familière quand même. Pour porter cette histoire, j'ai eu envie que ce lieu qui ne bougeait pas depuis des années, qui était immuable avec ce village, on a un village des Sols qui n'existe pas mais qui géographiquement se trouve près de Modane. Le Val des Sols est vraiment, c'est un village de fiction quand même, mais on peut très très bien le retrouver. Oui, une piste de ski va être construite, c'est la nature qui l'a un peu décidé puisqu'il y a eu une avalanche au printemps. C'est pas tout à fait les hommes se sont servis, se sont engouffrés dans cette brèche-là. Mais ça m'a intéressé de voir aussi, de traiter de ce thème qui, en bout de course, d'un basculement, un endroit comme ça qui va se moderniser, qui va tout doucement, d'un endroit où personne ne s'arrêtait, un endroit où les gens vont s'arrêter, il va y avoir des pistes, il va y avoir des hôtels. Alors on est dans cet entre-deux, où les gens vont perdre les repères, ceux qui sont nés là depuis très longtemps vont perdre leur repère, leur histoire. Mais à côté de ça, voilà, il faut évoluer, il faut bien avancer un petit peu sur ce chemin. Donc oui, comme vous disiez, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui ne veulent pas. Donc il y a les bulles qui sont là, qui sont présents, qui ne bougent pas, c'est encore trop tôt, mais ils sont présents. Et puis il y a Francky, c'est le patron du bar, et lui, tout doucement, par diverses choses, il amène le changement dans la mentalité des personnages, parce qu'il va commencer à changer les banquettes, qui sont vieilles, qui des banquettes qui datent de plus de 50 ans, qui sont abîmées, qui sont griffées, qui sont brûlées par les mégots de cigarettes et tout ça. Et donc, tout doucement, il va amener par des changements les cendriers, et puis le jukebox à la fin, avec les chansons qui chantent. On enlève les vieilles chansons, on va en remettre d'autres. Tout ça, oui, c'est la géographie du roman.
C'est bien parce que vous avez anticipé la question que j'allais vous poser. Il y a un lieu de ralliement dans ce village, hein. C'est la lanterne, donc vous appelez le zinc à Francky, où tout le monde s'y retrouve, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre de la journée. Il est ouvert tous les jours, même parfois le dimanche après-midi, et ça bouge.
Oui, c'est important, ces lieux. Moi, je suis toujours triste. Moi, j'aime bien les cafés. Les cafés, je trouve que c'est des endroits où les vieux bars de village ou de ville, de quartier, sont des endroits où les gens se retrouvent et où il se passe des... Humainement, c'est très fort. Et dans mes romans, c'est vrai que dans Les Déferlantes, il y en avait déjà un, mais c'est parce que sans doute j'ai un attachement, moi, à ces lieux-là, que tout naturellement, ils s'y glissent. Je vais quelque part, voilà, l'endroit où on peut rencontrer, c'est de pousser la porte du café. Et là, c'est étonnant en prenant le temps. Donc oui, c'est un lieu de ralliement. C'est l'endroit où Carole, la narratrice, se retrouve. Elle va là-bas, elle prend un café, elle lit le livre qu'elle traduit. Il y a un poste où elle peut se connecter sur Internet. Donc elle se connecte de temps en temps, parce que dans cet endroit-là, la connexion n'est pas tout le temps possible. On est quand même dans un endroit isolé. Et c'est ce qui est intéressant. C'est là aussi où tous les bûcherons qui travaillent en face à la scierie se retrouvent pour manger. Voilà, c'est là où on a Diego, des personnages secondaires mais qui ont leur force. Donc oui, c'est un lieu important. C'est la lanterne, c'est la lumière, c'est l'endroit qui reste ouvert.
Alors cette Carole, elle effectue des traductions. Elle est professeure de cuisine.
À Saint-Étienne.
Ouais. À Saint-Étienne, elle fait des remplacements.
Ouais.
Là, elle a un remplacement qui l'attend après les fêtes. Elle s'installe dans un gîte. Et puis... elle va beaucoup se déplacer dans le village de son enfance. Et c'est la première chose qui frappe quand on vous lit. Ce sont ces mille et un déplacements qu'elle effectue tous les jours. Elle travaille en général le matin. Et ensuite, elle sort. Elle va à la lanterne, bien sûr. Elle va à la scierie. Elle marche jusqu'au pont sur la rivière. Elle va chez son frère. Elle va chez celui que vous appelez le vieux Sam. Elle effectue des visites chez sa sœur, Gabi, naturellement. Elle va voir la baronne et son chenil. C'est important, ces déplacements.
Elle est en pause. Carole, c'est un personnage de femme qui a une quarantaine d'années. On peut la situer à peu près comme ça. Donc, elle n'a pas de métier fixe. En tout cas, pour le moment, elle est en vacances. Hein, elle n'a pas de remplacement à faire. Et elle a deux filles qui sont parties faire des études pour un an en Australie. Donc, ses filles ne sont plus là, elle est en lien avec elles. Mais bon, non, elles ne sont plus là physiquement. Son mari a profité, profité le mot est peut-être pas là, mais l'appartement vide, les filles ne sont plus là. Il y a eu une déstabilisation, c'est un moment compliqué dans un couple. Le mari est parti, il n'est pas parti pour une autre femme, il est parti... Voilà, par besoin d'espace, parce qu'il avait envie d'autre chose, parce que tout a bougé tout d'un coup. Donc Carole se retrouve seule, et c'est pour ça qu'elle revient au Val des Sols. C'est parce qu'elle a le temps. Et dans une vie, c'est pas si courant qu'on ait le temps. D'habitude, quand elle revenait au Val des Sols, elle restait quelques jours, et puis elle repartait. Elle fuyait. Elle pouvait pas rester là. Elle s'attarde, elle traduit donc une biographie, parce que bon, voilà, elle a du temps, et elle fait cela. Et le reste de son temps, oui, elle en profite pour renouer avec ses paysages, pour reprendre le temps de marcher à son rythme. Ce matin, quelqu'un me disait, j'étais à Saint-Savin, une rencontre, et quelqu'un me disait, il faut que j'aille à Venise. La personne avait lu Seule Venise, elle me disait, je vais aller à Venise, j'y suis souvent allée. Avec des amis, avec mon conjoint, mais j'ai envie, maintenant que je vous ai lu, d'y aller seule. Parce que quand on est seul, on doit marcher autrement. Et j'ai trouvé que cette expression « marcher autrement », est belle parce qu'on reprend son propre rythme et ça nous permet de comprendre, de faire un point sur sa vie. Et Carole, c'est ce qu'elle fait. Elle va voir le vieux Sam. Le vieux Sam, je l'aime beaucoup. C'est un personnage secondaire, mais qui est très puissant, qui est très beau. C'est un vieil homme qui lui réapprend doucement, qui l'apprivoise. Elle y va, elle retourne le voir, il lui prépare du thé. Elle n'aime pas le thé, mais elle va le forcer à le boire parce que ce qu'il lui dit la grandit, l'apaise, la nourrit. Alors c'est lent, c'est sûr qu'il en faut des rencontres, mais au bout de bout, c'est un personnage qui lui aura beaucoup apporté. Et puis voilà, donc c'est vrai que ces déambulations comme ça sont utiles pour elle. Ça lui permet de faire son chemin parce qu'elle est dans une période de sa vie où finalement c'est très instable, donc elle a besoin des autres, elle a besoin de renouer avec les autres, de renouer avec son enfance, avec sa maison d'enfance, avec l'histoire qu'il y a dans son enfance. C'est compliqué pour elle. C'est la plus fragile de tous. Enfin, pour moi, en tout cas, au début, c'est vraiment la plus fragile.
Voilà, alors vous venez de parler du vieux Sam. Grâce à ses multiples déplacements, elle nous fait pénétrer dans, je crois qu'on peut employer le mot, l'intimité du village, non?
Oui. Mais elle le fait d'une façon très pudique. Oui, c'est vrai qu'elle entre, elle récolte un peu les confidences. De Sam, c'est les confidences. Elle comprend des choses parce qu'elle prend le temps de regarder, d'être à l'écoute. Donc il y a des choses comme ça qu'elle arrive à percevoir. C'est elle qui raconte l'histoire. L'histoire est racontée avec la voix de Carole. Donc le jeu, c'est elle. Donc, c'est le fil conducteur, on va dire, on peut dire que c'est elle. Elle va voir sa sœur. Elle y retourne. Au début, les relations avec sa sœur sont très compliquées parce que Gabi est un être... j'allais dire fruste, modeste, dans le sens qu'elle a très peu de choses. Elle vit dans un bungalow, elle fait des petits boulots, elle travaille dans un hôtel. Enfin, c'est quelqu'un qui a une vie très simple. Ses deux sœurs sont très différentes et dans leur passé. Gabi, son mec, est en prison, pas pour des grands, des petits larcins, des petites choses. Mais bon, larcin plus larcin, il a fini par se faire arrêter. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a un destin pas facile. Et oui, elle pénètre dans l'intimité, dans les confidences, lentement. Elle se laisse, à la fois elle apprivoise les gens, elle se laisse apprivoiser par eux.
Je fais une petite parenthèse sur la montagne. Vous l'aimez, cette montagne? Avant de revenir au personnage.
J'aime cette montagne, j'aime les endroits en général. J'aime les lieux où vivent les gens. Quand je suis en train, en déplacement, et que des fois les retours la nuit, quand vous êtes dans le train, ça roule, vous voyez rien parce que donc les paysages sont dans l'obscurité, puis de temps en temps vous voyez des petites lumières comme ça, il y a des maisons. Moi, ça m'intrigue énormément de me dire, il y a des gens qui vivent là. Je me rappelle quand je suis allée à Brive-la-Gaillarde le mois dernier, c'était très net parce qu'il faisait froid. Et puis donc je suis arrivée à Brive très tard le soir, et je voyais, donc au bout du bout, j'avais fait 7 heures de train, c'était long, infiniment long pour arriver à Brive. Et je voyais ces petites lumières, et c'est très mystérieux de voir où habitent les gens. Et dans un roman, cet attachement que j'ai dans la vraie vie pour les endroits, je pense que c'est pas du décor. Les lieux où se passent les histoires, c'est bien plus que du décor. Ça impacte sur le comportement des gens. Ça gère leur façon de se comporter, d'être, de parler. Donc pour moi, les endroits sont vraiment... Là-bas, cette Morienne, c'est improbable. C'est un endroit, c'est le bout du monde. Enfin, il faut vraiment y aller. Je vois quelqu'un qui fait oui la tête, qui est une connaisseuse. Il faut vraiment prendre cette vallée, s'enfoncer. Et plus on s'enfonce, et plus ça se rétrécit. Les parois des montagnes, on est dans un endroit obscur. Il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il va y avoir ici, au bout? Et quelle vie? Et l'écriture... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est explorer la vie dans ces endroits-là. Qu'est-ce que l'on vit dans ces endroits, finalement, qui ne sont pas forcément très visibles au premier regard? Voilà. Et quelle vie se lève là? Quelle poésie? Parce que j'ai l'air comme ça de décrire un endroit rude, mais c'est un endroit infiniment beau. Ce qu'il y a, c'est quand on passe, ça ne se voit pas au premier regard. Mais c'est un endroit... Enfin, je reviens sur le mot poésie. Pour moi, c'est des endroits de grande beauté, de grande... Là, on est début décembre, la neige va tomber. Il y a des émotions, voilà, des émotions de paysage. On n'est pas des êtres humains sur des décors, on est dit sur des terres. Enfin, moi, je pense qu'on est vraiment très, très reliés à la terre, on est vraiment très reliés aux endroits. Et donc, dans les livres, c'est ça. Les personnages sont vraiment reliés aux endroits.
marcou-me a vida com as suas garras e deixou-me à mercê das suas manhas, com mordaças, algemas e amarras, com erros e acertos e verdade, e lágrimas e risos e cantiga. Fui provando o sabor pondo poemas a intrigas, porque a alma era branca em seus matizes, porque a pele era branda em seu veludo. Guardei como troféus as cicatrizes de pôr as mãos em lama, em fogo, em tudo. Teus beijos a molhar cada rasgar, ao menos refresquem seus sinais, as marcas de que fui na lasta, as cicatrizes. Oh mãe, não sofro mais. Teus beijos a molhar cada rasgar, ao menos que refresquem seus sinais, as marcas de que fui na lasta, mas cicatriz a mais.
Couleur FM 97.1, avec notre invité Claudie Gallet et Dominique Molin, nous venons d'entendre du fado avec Missia dans Cicatrice de l'album Drama Box. Continuons notre entretien.
Vous pouvez nous raconter la promenade à cheval de Carole qui grimpe justement sur la montagne et qui jusqu'à la ligne de partage des eaux?
Ah, c'est des endroits fabuleux, ça, les lignes de partage des eaux. Ces lignes, donc il y en a une là-bas dans les Alpes, il y en a une en Ardèche aussi. Enfin, il y en a dans le Montana, il y en a une énorme qui suit toute une faille. C'est, voilà, on parle de poésie, c'est ça. La pluie qui tombe, c'est un endroit, c'est une ligne invisible. Mais quand la pluie tombe sur cet endroit-là, selon qu'elle tombe d'un côté ou de l'autre de cette ligne, eh bien, la goutte de pluie va partir soit en Méditerranée, c'est-à-dire tomber et passer sur ce versant-là, soit rejoindre de l'autre côté le pot et finir peut-être jusqu'à Venise si on suit. Donc c'est pas forcément, si on veut être dans la réalité des choses, c'est peut-être pas si simple que ça. Donc elle va, elle prend un cheval, elle monte là-haut et elle trouve cette ligne invisible.
Comment vous faites pour trouver le nom des lieux? Le gouffre de la Joule, les terres sombres, la Malfondière, le cairn de Maldavie. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Non, mais ils sont beaux, ces noms.
Ils sont beaux. Bah, les terres sombres, je pense. Ici, à côté de Saint-Savin, il y a les terres froides. Donc je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas de la science-fiction. Il y a des choses qui sont dans la mémoire d'enfance, dans la mémoire de vie, et qui glissent pour devenir. Enfin, qui se transforment en littérature. Donc. Les romans s'écrivent, partent de la vraie vie et basculent doucement par le papier, par le stylo et par cette autre chose qui fait que on passe tout ça, toutes ces émotions par l'écriture, ça devient de la littérature. Et puis après, ça redevient de la vraie vie dans la mesure où ça passe chez le lecteur qui le lit et en fait ses propres émotions. Voilà, donc les terres sombres, oui, terre froide, terre sombre. La Malfondière, je ne sais pas. Curtil, je sais qu'il y a un endroit... j'ai des attaches dans le Brionnais et il y a un village, un tout petit hameau qui s'appelle Curtil. À chaque fois que je rejoins l'endroit où je passe pas mal de temps là-bas, je traverse, enfin, je longe et je vois ce panneau Curtil. Et ça m'avait... Curtil, je trouvais que ça sonnait bien, qu'il y avait un côté Curtil. Voilà, et le nom du père est arrivé comme ça. La tresse, c'est compliqué de savoir exactement d'où viennent. À un moment, c'est comme ça, c'est là. La Malfondière, c'est beau, ça parle.
Alors, on revient au personnage du roman quand même. Il y a Philippe, le frère aîné de Carole. C'est un personnage peu démonstratif, apparemment. Mais il a une passion. Il veut aménager le plus beau chemin de randonnée qui reprendrait l'itinéraire suivi par Hannibal pour franchir les Alpes. Et il a une culture intarissable à ce sujet.
Oui, il est titlive.
Il
est finalement, il est passionné. Donc quand on est passionné, on gratte, on va chercher et il lit beaucoup. Oui.
Parlez-nous des relations entre Philippe, justement, et sa sœur Carole, qui sont un peu tendues, apparemment.
Oui, parce qu'ils ne se comprennent pas trop. Philippe, il est né là-bas, il est né dans ce Val-des-Seuils, il n'en est pratiquement jamais parti, sauf que quelques années dans l'adolescence avec ses parents, parce qu'il était obligé, il en est revenu. C'est quelqu'un qui est attaché à sa terre, qui est attaché à son parc de la Vanoise, qu'il aime profondément. C'est quelqu'un qui aime les chemins, qui aime, donc il veut retrouver ce chemin. Personne ne peut avoir l'idée de passer comme ça des heures aussi longues à rechercher et à vouloir trouver le chemin qu'a pris Hannibal, c'est quelque chose, et lui, c'est son objectif. Il veut le trouver, il lit, il va finir par le trouver. Sa sœur, c'est celle qui est partie. Carole, elle est partie, elle a fui un peu, je pense. Quand elle revient, c'est pour quelques jours jusqu'à présent. Après, elle repartait. Elle est celle qui, socialement, s'est un peu décalée dans la mesure où elle est professeure, même si elle n'est que professeure de cuisine, elle est quand même... Elle travaille dans une structure, on va dire, un petit peu plus intellectuelle. Et puis dans son comportement, Carole, au début, un peu, enfin moi, je la trouvais, j'allais dire, un peu agaçante. Elle lève un petit peu au départ. Elle n'a pas sa juste place. Elle sait pas. Elle est partie. Pour celui qui part, c'est compliqué de retrouver sa juste place. Son envie, c'est peut-être qu'il se retrouve. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un doute sur cette fameuse boule. Et c'est des lecteurs, moi je ne l'avais pas vue. Des lecteurs m'ont dit, est-ce que cette fameuse boule de verre que le père a envoyée pour leur donner rendez-vous, est-ce que ce ne serait pas Philippe qui l'aurait envoyée pour faire... D'ailleurs, ils en ont le doute. Philippe dit non. Bah, voilà, donc lui, je pense qu'il aimerait que Carole, que sa sœur soit plus présente.
Alors, il y a Gabi. Ouais. Gabi, vous en avez parlé. Gabi, la petite sœur.
Oui.
C'est un personnage, je ne sais pas si l'adjectif va vous convenir, mais que je trouve monumental.
Oui.
Énorme.
Oui. Elle est belle, je veux dire, c'est une belle âme. C'est une très, très belle âme.
Elle non plus, c'est pas une grande bavarde. Elle n'est pas démonstrative. Et puis, chaque fois qu'elle parle, on a l'impression que c'est définitif.
Oui. Elle n'a pas le temps, contrairement à sa sœur, de s'encombrer de choses inutiles. Elle a un quotidien qui est rude, Il faut tous les jours se chauffer, il faut tous les jours se nourrir, il faut tous les jours... C'est compliqué. Elle est en charge d'une... Elle élève une... une fille, une adolescente maintenant, qui n'est pas sa propre fille, mais qu'elle élève comme si elle était sa fille. Tout ça fait qu'elle a une vie ramassée sur le quotidien. C'était intéressant pour moi de la suivre comme ça dans ce journal pour voir au quotidien comment elle faisait pour évoluer. Elle ne parle pas beaucoup, donc sa sœur vient. Il y a beaucoup de choses que Gabi n'a pas dites à sa sœur parce qu'elle n'a pas confiance en elle, ou parce que le temps, parce que les filochements des sentiments. Mais c'est deux relations de sœurs que j'ai aimé gratter, j'ai aimé creuser, des sœurs tellement différentes, et pourtant, il y a au fond d'elles ce lien. Quand à la fin, enfin pas à la fin, mais à un moment, Gabi est malade, elle a de la fièvre, et il faut que sa sœur la lave. Il y a une scène qui est d'une femme, moi je les trouve très, très puissantes toutes les deux, parce que laver le corps de quelqu'un, c'est d'une intimité, et d'une confiance, il faut accepter de se laisser regarder, il faut accepter de se mettre à nu. C'est quelque chose d'infiniment compliqué. À un professionnel, une infirmière, c'est différent. Mais à quelqu'un qui vous est proche, ça demande une grande confiance. Et entre les deux, c'est un moment voilà, où la relation tout doucement commence à se souder. Et Gabi n'est pas une, physiquement un canon de beauté, c'est pas la femme. Et elle dit à sa sœur, mais regarde pas comme ça. Mais je te regarde pas, lui dit l'autre. Enfin, j'ai plus exactement. Elle dit, mais je suis moche, hein, je sais que je suis moche. Et c'est d'une, elle a rien besoin de dire plus. Et on comprend, et on comprend. Elle utilise peu de mots, Gabi.
Elle est souvent en colère, elle bougonne. Gabi râlait qu'il y avait des grands principes d'humanité, que le premier, c'était de ne pas faire chier les autres. Plus loin, elle continue, tout le monde a mal à répliquer, Gabi. Les doux, les riches, les beaux, les rois, même les cons.
Oui, elle dit aussi...
C'est Gabi, ça.
C'est Gabi, elle dit aussi qu'elle ne veut pas se faire avoir par la misère, par la tristesse à un moment. Quand son gars la quitte, elle... Oui, ben elle est rude, elle...
Elle n'aime pas qu'on l'aide. Hein, je peux emporter ton linge, il y a une machine qui essore bien au gîte. Pas la peine. Ça serait mieux, au moins ça serait sec tout de suite. Il faudrait juste qu'il y ait un peu de soleil, elle a dit. Juste ça et ça suffirait pour faire le mieux.
Ouais. Oui, parce qu'elle n'est pas habituée à ce qu'on l'aide. Et je crois qu'elle dit à un moment, suite à cette scène-là, sa sœur va l'aider et après sa sœur va repartir. Donc il ne faut pas qu'elle perde l'habitude de se débrouiller toute seule. Gabi, ce qui la sauve, c'est qu'elle se débrouille toute seule. Pour le moment, elle arrive à se débrouiller toute seule. Sans doute qu'au fond d'elle, elle sent bien qu'elle n'est pas habituée. Quand on n'est pas habitué à ce qu'on nous aide, on a peur de cette aide-là. Parce que après, quand est-ce qu'on arrivera à marcher de nouveau toute seule? Est-ce qu'on arrivera à se tenir? C'est pas simple. Donc je pense que c'est pas qu'elle n'a pas envie qu'on l'aide, c'est qu'elle n'ose pas avoir confiance dans l'aide que peut lui apporter sa sœur. C'est plus à ce niveau-là. Quand l'autre va partir, je vais faire quoi? C'est comme les gens qui, après quelques déceptions amoureuses, n'osent plus aimer à nouveau parce qu'ils ont peur que le jour où l'amour va s'arrêter, est-ce que je vais avoir le courage de me redresser? Elle, c'est un peu ça. Je pense que si elle est dans cette « laissez-moi tranquille, je me débrouille comme ça », elle sait que son monde est fragile. Gabi, son monde est extrêmement fragile. Son univers, elle a... c'est sur le fil. Donc voilà. Mais à la fin, elle retrouve... Elle réapprend à avoir confiance. Donc c'est plutôt bien.
Je reviens à la relation entre les deux sœurs. Là, vous en avez parlé. Mais si je pose la question, c'est que Carole se la pose. Est-ce qu'elle ressemble à Gabi?
Moi, j'ai envie de dire au fond de son être, au fond de son... Oui, c'est pour ça, toute façon. Oui, elle lui ressemble, puisqu'elles peuvent se parler à la fin, puisqu'elles se retrouvent sur l'essentiel. C'est qu'elles ont ce terreau-là, il leur est commun. Après, c'est vrai que leurs trajectoires se sont séparées. Elles ont des vies différentes. Elles sont... Donc, c'est vrai que ça se complique. On n'a plus le même quotidien, elles non plus. Mais elles ont... Elles ont le même, je reviens sur l'expression terreau, elles ont les mêmes années d'enfance, c'est les années d'enfance qui... Et puis dans leur solitude, dans leur attachement, dans ce besoin de tendresse finalement humaine qu'elles ne se disent pas à haute voix, mais qui se ressent à chacun de leur... Elles sont en quête, elles sont en attente toutes les deux, elles ont la même attente, pas l'attente d'un grand destin, elles ne cherchent pas le prince charmant, tout ça, non, mais elles cherchent simplement une vie... Voilà, une vie harmonieuse, un apaisement, je pense, l'une comme l'autre. Voilà.
Je reviens au personnage du vieux Sam, qui est une espèce de sage. Un jour, il dit à Carole, sur chaque jour que la vie nous donne, il faudrait prendre quelques minutes et se demander quelle chose belle on va faire, ou quelle chose juste. C'est remarquable.
Mais oui, mais c'est à la fois remarquable, mais pourtant c'est tout simple. Il dit, c'est tout simple, c'est... Redites-le.
Sur chaque jour que la vie nous donne,
il faudrait... C'est tout simple, il n'y a pas de moins compliqué.
Il faudrait prendre quelques minutes et se demander quelle chose belle on va faire ou quelle chose juste.
Voilà. Quelle chose belle on va faire ou quelle chose juste, tous les jours. Se demander cela. Prendre le temps. Et faire de chaque... Je crois qu'à un moment, il continue en disant... Et il faudrait faire de chaque jour un moment de grâce ou tenter, quelque chose comme ça. Oui, être attentif à nos vies. Je crois que le message du vieux Sam, c'est ça. Mais ce qu'il dit, c'est pas... Ce que j'aime dans ce personnage-là, et ce qui me gêne chez les grands philosophes, c'est que lui, il dit des choses universelles, mais avec des mots simples et qu'on peut tous comprendre. Et ça, c'est il met cette sagesse-là à la portée de tous. Et c'est pour ça qu'il y retourne, parce qu'elle a besoin de l'entendre, elle a besoin de lui. Et il était... C'est un homme qui vit seul, il vit dans une vieille boutique et sa femme est morte il y a quelques années. Et c'est un homme qui aimait énormément sa femme. Il y a une relation d'amour sincère, très, très... Entre deux, il parle de sa femme et de sa disparition avec infiniment de douleur, alors qu'elle est morte déjà il y a longtemps. Il continue de l'aimer et il dit « je l'ai aimée » parce qu'il avait conscience de ça, du temps. Sam, c'est quelqu'un qui a vraiment conscience du temps qui passe et de la nécessité de faire très attention à... C'est l'irréversibilité du temps. Chaque jour qui passe, on a beau faire, quelle que soit notre énergie à le retenir, quelles que soient nos croyances... Le jour passé, il est passé et on ne peut pas revenir dessus. Donc, il faut être attentif à ce que chaque jour... Parce que les regrets, c'est bien beau, mais c'est trop tard. Donc, et Sam, il véhicule ça. Chaque jour, être attentif à l'autre, être attentif à la vie. C'est très compliqué, ce qu'il dit. Mais en tout cas, c'est ce dont il parle. Et il aimait cette femme qui est morte et qu'il aimait passionnément. Il veut la retrouver par la poésie. On revient sur la poésie du début parce qu'il... Il y a une légende, il est passionné par les papillons. Il y a une légende qui raconte que les papillons monarques, par le bruissement de leurs ailes, ramènent les paroles de ceux qui sont morts, de ceux qu'on a perdus. Et que si on entend le bruissement des ailes des papillons monarques, on peut réentendre la voix des gens qu'on a aimés et qui ne sont plus là. Alors, bon, voilà, on en pense ce qu'on en pense, mais quand vous lisez ça dans la voix de Sam, on a envie d'y croire. Et puis pourquoi pas? Et puis si ça pouvait être vrai? Donc lui, il veut vendre sa boutique pour aller au Mexique réentendre ses papillons et essayer de retrouver la voix de celle qu'il a aimée.
The only thing, Splendio, baby, dream a while, scheme a while, sure to find happiness, and I guess all the things you pine for. Gee, I like to see you looking swell, baby. Speed, speed, love, baby, until that lucky day, you know darn well.
Couleur FM 97.1 avec notre invité Claudie Gallet et Dominique Molin. Nous venons d'entendre Rose Murphy dans I Can't Give You Anything But Love, enregistré en novembre 1947 de l'album Ladies in Blue. Continuons l'entretien.
Alors nous sommes le 14 décembre, c'est bientôt Noël. Dans le livre, c'est le 21 décembre, c'est la fête au village, ouais. La fête des Lumières. Et il y a cette scène qui est une scène énorme. Entre Jean, le patron de la Syrie, et Marius. Alors, si vous êtes d'accord, soit vous nous la racontez, soit vous nous la lisez, soit je vous la lis, mais on ne peut pas... J'ai envie d'entendre cette scène. T'as beau cadeau de Noël.
Je vous la lis. Il a fait un signe à Marius. Tu sais combien de rennes avait le Père Noël? Marius ne savait pas. Jean lui a dit qu'il y en avait 9. Tu veux les voir? Il a fermé ses poings, Marius a dû choisir une main. Dans le creux de sa paume est apparu un petit renne en plastique. « Celui-là, c'est Tornade, » dit Jean. Il a refermé ses poings, Marius a désigné une main. À l'intérieur, un second renne. Celui-là se nommait Danseur. La môme s'est approchée, Yvon aussi. D'autres enfants, curieux, attirés. Certains regardaient de loin, osaient timidement l'émerveillement. Calés contre le mur, les deux frères écoutaient. Marius désignait sans toucher. Il ne souriait pas, mais pour chaque reine trouvée, il levait sur Jean un regard étrange, mêlé de gravité et de stupéfaction. Les reines sont tous apparues, nées d'un choix de hasard et déposées sur le banc. Il y a eu Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre et puis Éclair. Jean a sorti un traîneau de sa poche et il a attelé les reines. Marius a froncé les sourcils. « Il en manque un !» il a murmuré. Jean a compté les reines, 1, 2, 3. Il a dû se rendre à l'évidence, le 9e était absent. Il a regardé l'enfant, ses épaules minces sous le pull, le cou fragile. Soudain, son visage s'est éclairé. Il a claqué 2 doigts à l'oreille de Marius. Et de ce claquement à portée de l'aube est apparu le renne perdu. Celui-là avait le nez rouge. Jean a dit qu'il s'appelait Rudolphe et qu'il servait de guide dans les tempêtes. C'est grâce à lui que le Père Noël trouve le chemin de toutes les maisons. Grâce à lui aussi qu'il peut rentrer chez lui une fois sa tournée terminée. Il a posé Rudolphe sur le siège à côté du Père Noël. Il est plus petit que les autres, mais c'est le plus précieux de tous. Jean a vu la main inerte de Marius. Il m'a interrogé d'un haussement de sourcils sans que je puisse lui répondre. Il est revenu à l'enfant. « Tu surveilles tout ce petit monde ?» Il est parti acheter des paquets de pop-corn. De tout le temps de l'absence de Jean, Marius n'a pas quitté l'attelage des yeux.
Alors ce Jean, qui est un personnage complexe, on peut dire, une nuit, il emmène Carole dans la dameuse pour aller préparer une piste pour le lendemain. Mmh. Vous pouvez nous raconter ?
Alors Jean, c'est
la poésie toujours dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, pour les situer tous les deux, Jean, c'est un flirt d'enfance, d'adolescence. Carole le retrouve, ils se sont aimés comme on s'aime quand on a 15 ans, on rencontre quelqu'un à 15 ans, c'est l'autre, c'est le premier que l'on rencontre. Et il y a cette émotion pure, cette émotion sensible qui marque nos mémoires. Je crois qu'on n'oublie jamais ça, la première fois où on rencontre l'autre. Et donc ils se sont rencontrés parce que la vie fait les choses. Ils se sont séparés, perdus de vue, entreaperçus de temps en temps. Mais ce lien ne s'est pas perdu. Ce lien est toujours là entre tous les deux. Surtout pour Carole. Je pense que le lien, Carole ressent plus que Jean. Parce que Jean a une autre vie à côté de ça. Et un soir, c'est tard, Jean propose à Carole d'aller damer la piste. Damer, c'est donc monter à bord de machines énormes qui s'accrochent à la montagne et qui vont tout en haut le soir quand les pistes sont vides, quand il n'y a plus personne. Et ces gars sont tout seuls à bord des engins, seuls, des machines énormes tout en haut. Et ils dament pendant des heures, pendant 6 heures. Ils tournent dans la montagne pour qu'au matin les pistes soient nettes. Et Jean, son travail d'hiver, c'est ça, il va damer. Et il propose ça à Carole, une fois dit non, 2 fois dit non. Et puis à la 3e fois, elle accepte, elle va partir avec lui. Et donc lentement, le soir tombe, ils vont s'accrocher à cette montagne, ils vont monter. Ça dure infiniment longtemps parce qu'on ne monte pas vite. Ils sont accrochés, mais bon. Donc petit à petit, le village d'en bas, les lumières vont s'effacer, ils vont arriver tout en haut, sur le toit du monde. Ils sont. Il y a la lune. Bon, la lune éclaire la neige. C'est des paysages presque bleus. On voit les cimes à perte de vue. Et ils sont là, ensemble. Ils se retrouvent. C'est très sensible. C'est leurs 15 ans finalement qui se retrouvent dans une nature très forte, très très pure, très émouvante. Il y a la peur aussi parce que quand on dame, on s'enfonce dans un vide et il faut avoir confiance en l'autre, parce qu'à un moment Carole se retrouve confrontée à l'instant où la dameuse va basculer et là qu'est-ce qu'on fait, c'est un apic vertigineux. Elle est persuadée peut-être même d'ailleurs que ça ne tiendra pas, ça tient, Et c'est une chance inespérée, enfin pour elle, pour lui, lui a l'habitude, mais pour elle d'être là-haut et de pouvoir voir ça. Et quand vous êtes là-haut, vous... c'est tout d'un coup, là, voilà, on reparle de nature et de force des paysages. C'est absolument, c'est un paysage éblouissant, oui.
Carole, tous les jours, entre 11h et midi, elle prend des photos. Elle photographie la jeune serveuse du restaurant qui, tous les jours, à peu près à 7h, donc, secoue sa literie. C'est un rituel. C'est important pour vous, ce rituel? Il y en a d'autres dans le livre.
Mais c'est important pour elle, avant tout. Oui, tous les jours, à la même heure. C'est obsessionnel. Elle ne le fait pas le premier, deuxième jour, mais elle le fait. Et elle a besoin de le faire entre 11h et midi. Elle s'est mis un carcan très, très, très précis. Si au-delà de midi, la photo n'est pas faite, elle ne la prendra pas. Donc, elle arrive quand même à la faire régulièrement. Je pense qu'elle fait ça pour... ils attendent leur père. Il faut pas perdre de vue que s'ils sont là tous les trois, c'est pas comme ça parce qu'ils ont un petit peu de temps à... Ils attendent le retour de Curtil, ce père qui est un père vraiment improbable, il leur a donné ce rendez-vous. Il va venir, il est toujours revenu. Il va venir, mais ils ne savent pas quand. Donc, comment on fait quand on attend quelqu'un pour meubler ce temps, pour lui laisser trace? Parce qu'en fait, je pense que si elle fait ça, elle le dit à un moment, c'est pour laisser représenter, c'est une façon à elle de représenter ce temps qui passe, les jours, le quotidien, ces choses infinies qui changent d'une photo à l'autre, comme d'un jour à l'autre, finalement, il n'y a pas beaucoup de... Elle affiche toutes ces photos dans sa chambre, et à la fin, elle a le choix entre les garder, entre les donner, entre... Ouais, mais cette serveuse est très belle, disons que c'est pas pour rien. Voilà, la serveuse, elle est fascinante. C'est une très, très... Elle est très belle. Tous les hommes sont amoureux d'elle. Il y a une fascination pour la beauté, même si c'est une beauté un peu particulière, parce que c'est une personne un peu différente par certains aspects physiques de son corps. Mais elle est fascinante. Elle a des vêtements qui sont... Voilà, on est obligé de la regarder. C'est le corps dans toute sa beauté qui fait que quand elle rentre, on se tait, on la regarde.
Alors, vous parlez de Carole qui attend son père, comme Philippe, comme Gabi, et vous ajoutez, avec le temps, je suis devenue nomade de lui et de tous ses endroits, de lui surtout. Les pères font les failles des filles.
Oui, c'est Carole qui dit ça. Vous avez vu, je me protège à chaque fois. C'est Carole qui dit ça, oui. Les pères font les failles des filles. Ben oui, parce que pour elle, c'est le père, ça a été l'absence fondamentale de sa vie. Un homme, vous avez un père comme ça, c'est à la fois très beau parce qu'ils l'aiment, leur père. Même dans l'enfance, ils partaient, ils les quittaient, mais ils revenaient tout le temps. Là, leur mère l'attendait, leur mère se faisait belle, changeait de robe, elle avait ce soin de lui plaire, de le retrouver, ce bonheur des retours de Curtil. Mais Carole, peut-être plus que les autres, en tout cas, souffre de ce manque. Ce qui est intéressant dans cette fratrie, moi, ce que j'ai voulu travailler là, c'est la fratrie, c'est cette relation frère-sœur. Ils ont eu les mêmes parents, mais ils n'ont pas le même regard sur le père. L'absence n'a pas été creusée, le manque n'a pas été creusé. Pareillement, chez les trois. On a l'impression que chez Carole, il y a vraiment un manque du père, une attente qui est beaucoup plus forte que chez les deux autres qui, finalement... On pensait tout ça, penser au sens soigner tout ça. Ils ont leur vie qui est peut-être dans laquelle ils sont en équilibre. Carole n'est pas en équilibre dans sa vie. Donc, est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le père fait partie en tout cas de ce manque-là. Mais ce qui est intéressant, enfin moi vraiment ce que j'ai voulu travailler, c'est le regard. Enfin, comment dans une fratrie? On a la même enfance, on a les mêmes parents, on a la même maison, les mêmes jardins, les mêmes jeux. Enfin, souvent, c'est vrai. Et pourquoi on est si différent? Comment on peut percevoir les choses aussi différemment? Quand arrivé à l'âge adulte, ils parlent de l'enfance, on a l'impression qu'ils n'ont pas vécu, dans un souvenir qui est le nœud du livre, on a l'impression qu'ils n'ont pas vécu la même chose, qu'ils ne se souviennent pas des mêmes choses, que ce qui a marqué Gabi n'a pas marqué Carole. Et ce que Carole, ce qui est à vivre chez Carole, finalement, Philippe, il s'en fiche complètement. D'ailleurs, à un moment, il lui dit, il faudrait te dépolluer de tout ça. Elle est encombrée par des souvenirs qui, lui, voilà, la vie continue. Et c'est intéressant de voir comment une fratrie évolue avec le temps. C'est un lien essentiel, mais c'est un lien très fragile à tenir.
On a l'impression que vos personnages aiment les maximes. Philippe, par exemple, qui dit à Carole, il est question de pommade, l'odeur, c'est la part des anges. Et puis on a Gabi, évidemment, hein, qui aime ses façons lapidaires un peu de s'exprimer. L'envie, c'est rien que du poison. C'est l'ennui qui fait devenir salaud. Toujours Gabi. Hein. Ou encore, c'est avec les cadeaux qu'on fait les esclaves. C'est extraordinaire.
Non, mais ça, c'est Gabi. Hein. Gabi, elle dit des choses comme ça. Mais l'ennui fait devenir salaud. Ça, c'est par rapport aux gamins qui sont... Oui. Il y a trois gamins qui sont de l'autre côté de la route, qui habitent en face du bungalow de chez Gabi. Alors, il y a le petit Marius, dont on a vu tout à l'heure. Marius, il est magnifique parce que c'est celui qui va s'en sortir, parce qu'il est poète, parce qu'il a ce petit plus. Et que, parce qu'il a rencontré la môme, ça aussi, on reparle de l'importance des rencontres, il a rencontré la môme, et la môme, parce qu'elle va s'attacher à lui, va lui permettre de développer cette petite chose qu'il a en lui et qui fait que ce gamin qui n'a pas grand-chose va dessiner dans la neige, va s'approcher du bungalow, va oser y revenir. Au début, Gabi ne veut pas le faire rentrer parce qu'elle ne veut pas de lui. Il y a des histoires anciennes, il y a des choses, il y a des rivalités. Donc Gabi le laisse dehors, puis tout doucement. Puis un jour, Gabi va lui ouvrir la porte et ce gamin, finalement, tout petit, tout chétif comme ça, qui va rentrer. Et les deux autres, ses deux frères aînés, n'ont pas cette chance d'avoir... fait la bonne rencontre au bon moment, et eux ils font bêtise sur bêtise, et l'ennui, ils s'ennuient, et l'ennui fait devenir salaud, elle le dit, et on est tous confrontés à ça, on sait quand ils tuent les oiseaux, la scène du filet des oiseaux, quand c'est des jeux de gosses, on sait, on a tous vu faire ça, ou en tout cas des choses approchantes dans nos campagnes, voilà, on est gosses, on est garçons, on tue les oiseaux, et donc les deux grands le font, et ils contraignent le petit à le faire. Et le petit se force parce qu'il ne faut pas couper la relation avec les deux aînés. Quand on est dans une fratrie, on revient là sur le même thème. Si je ne suis pas mes deux frères, si je ne fais pas comme eux, ils vont me rejeter, je vais me retrouver tout seul. Et donc le petit fait le même geste et après il se retrouve...
Alors il y a une autre maxime, c'est ces gens que je mets un petit peu à part. Celui qui sait boire le whisky gagne un morceau d'éternité. Et vous nous proposez une véritable leçon de dégustation. Je me suis promis la semaine prochaine d'aller y voir de très près parce que ça me paraît très, très, très pertinent.
Oui, mais je connais. Enfin, je connais. Oui, c'est bon. Oui, un bon whisky.
Oui.
Il faut le voir. Il faut le boire comme Jean le décrit.
Mais c'est bien pour ça que j'irai la semaine prochaine.
Ouais, voilà, vous prenez votre whisky tranquillement. Ne jamais mettre de glaçons dans un whisky. Ça, je l'ai appris avec Jean. Enfin, elle va pour mettre un glaçon dans le... Mais oui, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Prendre le temps sur des choses toutes simples. Ce livre, c'est... J'ai eu envie d'oser la lenteur des détails et des choses simples. Mais c'est pas dérisoire, les choses simples. C'est mettre une loupe sur... C'est comme quand vous prenez une mouche, vous regardez une mouche avec une loupe. Vous regardez une mouche comme ça. Vous n'avez qu'une envie, c'est de la tuer. Enfin, je fais un raccourci, mais quelque part, c'est un peu ça. On en parlait en plus. Si vous prenez une loupe... Vous regardez cette mouche, les ailes, les yeux, ces infinis détails et la vie. Après, vous dites, mais c'est vivant, vous ne pouvez plus du tout. C'est magnifique. Après, vous regardez. Voilà. Je ne dis pas que le livre est magnifique, loin de là, mais je dis que les détails de la vie quotidienne sont des perles, sont magnifiques. Et qu'il faut y prendre soin. Et ça rejoint cette maxime-là sur le whisky. Carole va au bar, elle se fait servir un whisky, c'est le soir. Elle va mettre des glaçons dedans. Elle fait ça sans réfléchir. Et Jean l'arrête. Et il va prendre un moment avec elle pour lui apprendre comment on boit lentement, sans faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les gestes, avec les choses. C'est ça qu'il lui enseigne.
City taunts me night and day. I find Salt Lake City on my mind. I lost my sugar in Salt Lake City. Oh, why did I go there? I should have stayed down in New Orleans. Never gone, no. like wine. She gave him diamonds and limousines. Stole that man of mine. When night comes creeping for me, there ain't no sleeping. What he sows, he be reaping. My solitude with the Salt Lake City blues. He's gone away and left me with the blues.
Couleur FM 97.1 avec notre invité Claudie Gallet. Pour finir, nous venons d'entendre Anita O'Day dans « I Lost My Sugar in Salt Lake City » de l'album de Big Band Canary, enregistré entre 1941 et 1945. Écoutons la suite de Claudie Gallet et Dominique Molin.
Alors, dans ce livre, quand même, il faut en parler un peu parce que c'est important. Puis c'est important dans une part du ciel, mais c'est également important dans l'ordre du temps. Donc, il y a quand même une présence assez énorme de l'art et des réflexions que ça vous inspire. Donc, Carole traduit un ouvrage sur Christo. Dans l'ordre du temps, évidemment, c'est André Breton. Et vous dites des choses qui sont très, très intéressantes sur l'art.
Je dirais que le monde, les artistes, le monde des peintres, que ce soit des sculpteurs, que ce soit des autres auteurs, c'est primordial. C'est ce qui nous enfin, moi, ça m'a tellement enrichi. Donc, on parlait de Dans l'heure du temps, les Cachinas, André Breton. Mmh. André Breton, donc c'est une histoire, c'est un roman Dans l'heure du temps, mais qui est entrecoupé de voyages dans le passé que fait Alice, un des personnages, en terre houpi chez les Indiens, là où... Alors, on revient sur la notion de poésie dans des endroits improbables. Les Indiens houpi ont construit leur maison en pisé, tout à la cime de falaises, en Arizona, dans une enclave, dans un territoire qui leur appartient. Ils ont construit leur bâtisse là-haut et ils ont une relation à leur Dieu qui est infiniment mystérieuse. Nous, on a du mal à la comprendre. Et très, oui, je reviens sur le mot poétique parce que je n'en trouve pas d'autres. Ils sculptent des poupées Kachina, des fétiches, et ils apprennent à leurs enfants à reconnaître tout leur panthéon, tout leur dieu. Chaque statuette est à l'effigie de leur dieu. Et ils apprennent comme ça à leurs enfants à reconnaître toute cette histoire, à connaître les traditions, à connaître la mythologie. Et Breton est allé là-bas et a récupéré certaines de ces poupées, certaines de ces masques. Il y a eu une vente dernièrement à Drouot, d'ailleurs, qui a fait une polémique, parce qu'il est absolument interdit de sortir les masques de ces endroits-là, de ce territoire-là. Et oui, c'est important de les glisser dans mon livre. Dans les déferlantes, c'est Prévert. Prévert, il avait refusé d'avoir une maison. C'était quelqu'un, Jacques Prévert, qui voulait pas de maison, parce qu'il disait, si on a une maison, on perd sa liberté. On est fixé géographiquement quelque part. Et un jour, il est arrivé à Auderville, là où j'ai écrit les Déferlantes, et il a acheté une maison, à Aumonville-la-Petite exactement. Il a voulu finir sa vie là-bas, c'était sa première maison. Et c'est quand vous lisez la poésie de Prévert, ça, voilà, tout naturellement, ça se glisse, c'est poreux, ça se glisse dans les livres, c'est important. Zoran Music dans Seule Venise, il m'a énormément apporté, c'est quelques lignes dans le texte. Mais on ne peut pas... Enfin, moi, je ne pouvais pas faire l'impasse là-dessus, il fallait le glisser. J'ai eu la chance en plus de pouvoir le raconter. Et ce qui m'a appris, c'est peut-être qu'il est allé dans les camps à Dachau et il a dessiné là-bas et il a ramené. Et 25 ans après, il a fallu 25 ans pour qu'il accepte de ressortir les dessins et de les regarder parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc ce travail de la mémoire, de la sensibilité, ça m'a énormément appris. Christos, c'est pareil. Christos, c'est la neige qu'on attend. Là, tout le monde, il parie, les gars parient sur la neige qui va arriver. Christos, il recouvrait. Son travail, c'était de recouvrir les ponts, les grands monuments, le Reichstag, le Pont Neuf à Paris. Il les recouvrait de grands voiles pour les montrer, pour que les gens les regardent enfin. Et le Pont Neuf à Paris, quand il a été recouvert, les gens sont venus et ils le touchaient. Ils venaient, ils le regardaient, alors qu'on ne le voyait plus, il était impacté. Mais du fait qu'il était impacté, les gens le regardaient. Je trouvais que ça ressemblait un peu à la démarche de Carole. Tout son passé, le passé de Carole est comme enseveli sous des silences, sous des choses qu'on ne dit pas, on n'en parle pas, comme si de ne pas en parler, c'est un peu comme si ça n'avait pas existé. Hein, on n'en parle pas comme ça, voilà. Bon, et Christos, c'est, on cache pour mieux donner à voir, pour révéler les choses d'une autre façon. Donc oui, l'art est important, oui, j'ai une grande admiration moi, pour les peintres et pour les sculpteurs, parce qu'ils sont capables de créer avec des couleurs. Qu'est-ce qui fait que des couleurs mises sur une toile vous touchent profondément, oui.
Vous avez parlé de la vente à l'hôtel Drouot. Quelques jours après, on a appris que ces masques avaient été achetés par une fondation américaine pour les restituer au Hopi. C'est une bonne nouvelle.
Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était très, très bien. Ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, globalement, dans ce livre... probablement dans d'autres, même sûrement, tous vos personnages attendent quelque chose ou quelqu'un.
Celui-là, dans celui-là, oui. Plus peut-être, oui, moi-même, oui. Oui, c'est dans beaucoup, oui.
Hein, Gabi qui attend son Ludo, Philippe qui attend Emma, Carole, elle attend Curtil, bien sûr. Jean, on ne sait pas trop, mais par moments, il aurait envie de partir, donc il cherche quelque chose quand même, malgré son amour de la montagne.
Oui, mais je pense que Jean, il ne partira pas.
Non.
Il lui va bien comme ça, Jean. Oui. Non, enfin, il ne partira pas, Jean. Oui, ils sont dans l'attente de leur part de ciel, en fait. Ça revient au titre de cette petite chose, voilà, qui rendra leur vie meilleure, leur vie plus belle, un peu d'humanité. Ils sont... Et ils osent montrer ça. Ils ne trichent pas sur ça. Oui, ils osent montrer leurs failles, leurs faiblesses. Ils sont là, ils sont à un moment, c'est pas facile, mais ils le montrent, ça se sent, c'est charnel.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que... c'est une histoire de rencontre. C'est une histoire de rencontre, et dans ces rencontres, la plus importante de toutes, c'est celle que Carole fait avec elle-même, non ?
Ah, oui, c'est cet apaisement qui, à la fin, se débarrasse de sa culpabilité, en fait. Le grand chemin qu'elle a fait, c'est d'accepter de vivre avec ce qu'elle a fait, avec ce qu'elle a cru mal faire, avec ce regard, se dépolluer de ce regard qu'elle a eu avec sa mère et qui a dévié toute sa vie, toute sa relation. Oui, c'est un livre sur l'apaisement de cette femme. Oui.
Parlez-nous de la môme.
La môme, c'est un des personnages, c'est une adolescente, c'est une jeune fille que Gabi élève, a récupérée. On ne sait pas au début de l'histoire ni d'où elle vient, ni pourquoi. On sait qu'elle est là. Que ce n'est pas la vraie fille de Gabi, mais que bon, il y a un amour maternel qui est très fort là derrière. Elle et Marius sont l'espoir de les adultes se dépatouillent, avancent, mais l'espoir, les deux beaux personnages, c'est la môme et Marius, parce que c'est des enfants déjà. Marius, parce qu'il traverse la route, c'est celui qui va traverser, donc qui va réparer les fautes qu'ont fait les adultes ou que croient avoir fait les adultes. Donc lui, il est très juste. La môme, elle a un passé étrange. Elle a un passé qui est en lien avec un lac qui fait partie d'un secret qu'on découvre tout. Et on découvre tout à la fin qui elle est vraiment et d'où elle vient. Alors c'est difficile d'en parler s'il y en a qui n'ont pas lu le livre. La seule chose que je peux dire, c'est que la fin, c'est-à-dire qui est la môme, est l'histoire de la môme, je l'ai eu en tête d'entrée, c'est-à-dire en commençant le roman, je savais que ça finirait vers cette confidence de Gabi, que Gabi serait capable de dire à sa sœur ce que sa sœur était devenue capable d'entendre. Voilà, il fallait tout ça, et donc ça, je l'avais au début.
Alors, pour terminer cet entretien, quelque chose qui m'a un petit peu amusé, quand l'ornithologue arrive dans l'appartement que l'organisme pour lequel elle travaille lui a confié, elle fouille dans les placards, elle trouve, il y reste de la nourriture. Et puis sur une chaise, je crois, il y a des vieux journaux, des vieux magazines. Et quand Carole arrive dans son gîte, il y a encore un petit peu de nourriture aussi dans les placards. Et puis, c'est pas des magazines qu'il y a, mais c'est des vieux journaux.
Oui, c'est marrant. Alors là, pourquoi ?
Je ne demande pas pourquoi, je constate.
Oui, constatez. Mais moi, je constate après coup. Et c'est là où on voit qu'un livre qui se finit n'est pas séparé de celui qui vient après, qu'il y a vraiment des correspondances entre les livres. Et voilà, je prends l'exemple du chemin ou du pas. Des fois, on me demande quel est le livre que vous préférez. Je n'ai pas de livre préféré parce que j'ai vraiment le sentiment profond que chaque livre écrit, c'est un peu comme un randonneur qui fait la marche, chaque pas qu'il fait est important. On ne peut pas dire que le premier qu'il fait est plus important que le dernier ou que celui du milieu qui finalement, chaque pas est important et permet, ce qui est important c'est le chemin. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant parfois quand je fais des rencontres comme ça en librairie ou parfois on me ramène des échos, dit mais ça résonne avec cet autre livre. Oui, alors pourquoi on creuse, pourquoi on revient, pourquoi... Ouais, c'est ces journaux, la trace de ceux qui étaient là avant nous. Mmh. C'est ça, on ouvre les tiroirs, c'est dans les vieilles maisons. Et puis qu'est-ce qu'il va y avoir dans les vieux tiroirs ? Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ?
Claudie Gallet, merci. Claudie Gallet, merci.
Au revoir Claudie Gallet, merci à vous. Merci Dan, merci Dominique et puis merci Laurent.
Titane.
À bientôt.